Salut à tous. Le 25 juin prochain, nous allons découvrir un rapport déclassifié par le Pentagone. Allons-nous vers une divulgation? On peut l'espérer. En attendant, certains pensent déjà que les extraterrestres sont parmi nous, et ce depuis bien longtemps. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, c'est inédit, c'est sur BTLV avec le docteur Michael Sala. Bonjour Michael, je suis ravi de vous accueillir.
Aloha, glad to be on
your show. Vous possédez un doctorat en gouvernance à l'université de Queensland en Australie. Vous êtes un spécialiste reconnu en politique internationale, en résolution de conflits et en politique étrangère américaine. Au cours de votre carrière universitaire, vous avez écrit 4 livres consacrés à la politique internationale, mais votre notoriété vient de ces ouvrages que vous avez écrits et qui peuvent sembler totalement fous, mais fort intéressants. Pionnier du développement de l'exopolitique qui fait le lien entre nos institutions et la vie extraterrestre, comme par exemple le lien entre l'assassinat de Kennedy et les extraterrestres, vous donnez un maximum d'informations donc dans les ouvrages que l'on vient de voir. Alors Michael, avant de démarrer et d'aller au cœur du sujet et de vos travaux, je voudrais juste avoir votre point de vue sur la situation actuelle concernant ce rapport qui va être déclassifié le 25 juin prochain. Est-ce que c'est le début d'une divulgation?
Les dossiers qui seront soumis au Congrès en juin, ça concerne les vues par la marine d'OVNI qui ont été documentées dans des vidéos et qui ont été sortis, et ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup les médias aux États-Unis et qui font en sorte que les services d'intelligence du Sénat autorisent le directeur de la CIA à soumettre un rapport qui viendrait des 18 agences d'intelligence. Et ce rapport, on y attend la documentation de l'histoire des rencontres ufologiques. Et ce sera concentré sur le fait que c'est une menace pour la sécurité des États-Unis et ce que le gouvernement de la défense doit faire en réponse.
Alors, vous parlez de menaces et c'est très intéressant parce qu'effectivement, l'US Navy a authentifié ces vidéos. Mais quand on regarde vos livres, quand on regarde vos travaux, on a la sensation qu'il y a une alliance qui est faite déjà entre des extraterrestres et les gouvernements américains et les armées de chez l'oncle Sam. Vous dites dans votre ouvrage d'ailleurs que c'est sous l'ère Trump que vous pensiez que la divulgation, d'ailleurs elle a commencé sous l'ère Trump, que la divulgation était possible.
Oui, le phénomène OVNI aux États-Unis, c'est très complexe parce qu'il y a certains de ces OVNI qui sont des vaisseaux extraterrestres, certains d'autres, ce sont des vaisseaux qui appartiennent au service d'intelligence militaire américain et même des privés d'ailleurs. C'est très complexe. Et sous la présidence Trump, il a essayé d'initier un système au travers de la création de la Space Force américaine où tout serait concentré sous une seule agence américaine qui serait Space Force et sur laquelle il pourrait prendre le contrôle. Mais quand ce processus a été initié pendant son administration, et maintenant ce que l'on voit, c'est qu'il y aura un rapport qui va être soumis, et on ne dirait pas que ce rapport sera complètement honnête et sincère, et en disant que ce serait des vaisseaux construits aux États-Unis d'ingénierie inversée. Mais je pense que le rapport se concentrera sur le fait que ces ovnis sont inconnus, que leur comportement est probablement une menace pour la sécurité, puisque ça a été observé par plusieurs casernes militaires pendant des exercices militaires, et ça constitue une menace, même s'il y a des branches dans l'armée américaine qui savent ce que sont ces objets et ces vaisseaux. Mais d'autres parties ne le savent pas. Donc voilà la complexité ici, c'est que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Et je pense que ce sera le plus gros problème avec ces rapports qui arriveront fin juin, c'est que on va avoir encore un seul point de vue qui ne prend pas en compte le fait que certains de ces vaisseaux viennent d'autre part que ce qu'ils nous diront.
Alors, c'est le Congrès américain qui a décidé et qui a pris le taureau par les cornes pour demander au Pentagone, justement, de rassembler toutes les informations de toutes les officines qui travaillent sur l'étude de ce dossier. Et donc, on risque d'apprendre, ou vous pensez, qu'on va cacher la vérité sur ces alliances extraterrestres que vous évoquez dans vos livres ?
Yes, I think that the...
Oui, je pense que... Que le rapport ne sera pas sincère par rapport à ce qui se passe vraiment. Je pense que ce sera changé par rapport à la vérité, qu'ils pourraient être extraterrestres, qu'ils pourraient être chinois, ces vaisseaux, qu'ils pourraient être russes, mais ils ne diront jamais qu'aucun de ces ovnis appartiennent à l'armée américaine, puisque c'est ça qu'ils garderont secret. Donc je pense qu'on va être témoin du début d'une grande déception. Et le but de tout ça, je pense, c'est de créer beaucoup de peur dans le public américain et de faire en sorte que le Congrès puisse créer un fonds pour l'armée et en particulier pour l'US Space Force pour gérer cette menace qu'ils vont exagérer aux yeux du public américain et du monde entier.
Alors, bien évidemment, on va revenir sur cette Space Force dans le courant de l'émission. Mais je voudrais revenir quand même à la genèse. Quand on lit vos bouquins, vous nous dites que suite à la bataille célèbre, la bataille de Los Angeles de 1942, on a créé un programme de recherche secret sur la propulsion antigravitationnelle. Et en même temps, des espions américains étaient au contact des nazis et ils se sont aperçus que les nazis eux-mêmes avaient des relations avec des extraterrestres.
Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une compréhension du fait que les nazis ont fait des recherches et des découvertes incroyables dans l'aviation. Et il y a eu des espions nazis en Allemagne qui montrent que les nazis ont fait des accords avec les extraterrestres et qu'ils ont été aidés dans le développement de certains de ces vaisseaux antigravitationnels. Donc après la Seconde Guerre mondiale, l'Air Force a créé un groupe de conseils scientifiques et ce groupe, on lui a donné la tâche de trouver qu'est-ce que l'Allemagne nazie a développé pendant la guerre, quelles découvertes ont-ils fait dans la recherche de vaisseaux antigravitationnels, ont fait les nazis et aidé l'Air Force américaine à développer une stratégie, un plan de stratégie pour 30 ans pour quoi faire pour répondre aux avancées technologiques qu'ont réussi les Allemands nazis. Donc, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un gigantesque programme en termes d'investissement pour la compréhension et l'ingénierie inversée par rapport à des vaisseaux qui ont été trouvés aux États-Unis et aussi à propos de certaines soucoupes volantes allemandes qui ont été capturées dans l'Europe occupée et amené aux États-Unis pendant l'opération Paperclip et pendant des programmes comme le programme LASTI.
On se souvient d'ailleurs de ces fameux Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale que les pilotes voyaient. Est-ce que ces Foo Fighters étaient des engins extraterrestres ou des engins peut-être issus de cette alliance nazi-IT?
Les Foo Fighters, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est très bien documenté. Je pense que ça venait de la recherche allemande de l'époque par rapport aux vaisseaux anti-gravité que leurs alliés extraterrestres les ont aidés à développer. Ces vaisseaux utilisent souvent des champs électromagnétiques très puissants et c'est pour ça qu'ils ont été associés à de très grandes lumières. Parce que l'effet anti-gravité qui était créé vient de la création de charges électrostatiques très puissantes. Et c'est ça qui a donné l'apparence aux Foo Fighters d'être des espèces de boules de lumière Et certains de ces Foo Fighters n'avaient pas de pilote, c'était juste des objets, des engins électromagnétiques que les nazis que les nazis essayaient de transformer en armes pour les utiliser contre la flotte de bombardiers anglaise et américaine à l'époque.
Alors effectivement, les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, vont essayer de comprendre quelles technologies les nazis ont récupérées. Il y a un certain William Tompkins qui aurait conçu d'énormes vaisseaux spatiaux pour un programme secret de la marine à l'aide de ses visiteurs. Là encore, ça paraît totalement improbable.
William Tompkins, il travaillait à la compagnie Douglas Aircraft de 52 à 63. Et pendant cette période, il travaillait à un niveau top secret de recherche qu'on appelait l'Uber Think Tank. Et ce qu'ils ont fait dans cet endroit, c'est qu'ils ont trouvé le design d'un vaisseau spatial d'un kilomètre de long. Et William Tompkins a dit que
Douglas Aircraft Company with...
À l'intérieur même de la Douglas Aircraft Company, il y avait des extraterrestres qui aidaient Tompkins et d'autres ingénieurs avec faire en sorte de trouver ces designs pour le futur. Ces vaisseaux d'un kilomètre de long. Donc, qu'est-ce que dit le témoignage? Qu'est-ce qui donne du poids au témoignage de Tompkins? C'est que il a été prouvé qu'il était impliqué dans la compagnie Douglas Aircraft. Il travaillait directement sous Wolfgang Klemperer, qui était un designer aérospatial très important, qui était donc le chef de Tompkins dans cette compagnie. Et ce qui est intéressant après, du docteur Klemperer, c'est qu'il a travaillé en Allemagne dans les années 20. Il travaillait pour la compagnie Zeppelin. Et il est venu aux États-Unis, il a aidé l'Air Force américaine à développer le tout premier
USS Macon et USS Akron.
Le premier cargo aéroporté. Tout ça a été construit et désigné et créé par le docteur Campbell avec Goodyear, qui était une compagnie américaine, et Zeppelin, qui était une compagnie allemande, qui ont collaboré pour créer ces énormes vaisseaux de transport de cargo.
Hard shell dirigibles. So,
qui étaient en fait des dirigeables, des ballons dirigeables à coque dure.
Douglas Aircraft Company, and he was Tompkins' boss. So you have
donc ce monsieur était le boss, le chef de Tompkins. Donc voilà la preuve que ce que Tompkins a créé chez la compagnie Douglas Aircraft sous les ordres du docteur Klemperer, c'était vraiment le projet dans lequel la Navy américaine était très intéressée.
Michael Salah, comment des engins qui font un kilomètre de long n'ont pas été repérés par le grand public? Comment tout cela n'a pas fuité? Comment on n'a pas pu s'en rendre compte avant que, bien sûr, certains écrivent des livres comme vous le faites vous?
D'après William Tompkins, ces vaisseaux d'un kilomètre de long ont été construits et développés dans un endroit très très éloigné dans l'Utah, dans les montagnes. Et c'est un endroit très éloigné et très très grand. Et ils ont une base souterraine construite là-bas qui est gigantesque. Certaines personnes parlent de gigantesques bases en Utah qui ressembleraient à une espèce d'Air 52. Il y a l'Air 51 dans le Nevada, mais les vrais développements seraient arrivés dans l'Utah, dans ces bases souterraines. Donc ce seraient des portes gigantesques dans le sol du désert dans l'Utah. Donc quand ces vaisseaux ont été construits et déployés pour des tests opérationnels, ils sont sortis du sol et ils se sont envolés dans la haute atmosphère jusqu'à l'espace. Et il y a eu beaucoup de témoignages de vues d'OVNI dans l'Utah, mais c'est très secret et beaucoup de gens sont intimidés et réduits au silence. Donc je crois que c'est très possible que ces vaisseaux ont été construits et développés et déployés en Utah à partir de ces bases.
Il semblerait que les extraterrestres qui aient collaboré avec les Américains, ce soit une race qu'on appelle les Nordiques. C'est ceux qui nous ressemblent plus, ces Nordiques. Ils sont grands, ils sont blonds. Est-ce qu'ils sont plutôt de notre côté ou, parce qu'on va le voir plus tard, peut-être enclins à nous nous rendre esclaves.
Il y a différents groupes d'extraterrestres qui ont interagi avec notre planète depuis très très longtemps. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un groupe en particulier qu'on décrit comme des reptiliens. Et on commençait à aider les nazis. Il y a un autre groupe, les Nordiques, qui ressemblent à des humains, ont aidé les Occidentaux puisqu'ils croient dans les mêmes valeurs, la démocratie, la liberté. Et les autres croyaient dans l'esclavage et la domination comme les nazis. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a ces extraterrestres qui ressemblent à des humains et ce sont nos alliés. William Tompkins décrit comme ils sont très amicaux et comme ils voulaient que nous, l'humanité, on développe un programme spatial très puissant sous l'égide des États-Unis, qui deviendrait des alliés de ces groupes humains et qui promeuvraient la liberté, la démocratie, pas seulement dans notre système solaire, mais dans d'autres systèmes autour de nous.
Donc, ça veut dire que ce que David Vincent poursuivait dans Les Envahisseurs, c'est une certaine réalité, c'est-à-dire qu'il y a autour de nous des envahisseurs, des gens qui sont extraterrestres et qui vivent parmi nous.
There are some extraterrestres.
Il y a des extraterrestres qui sont très hostiles à notre égard.
As a planet,
je crois qu'en tant que planète, on nous a pris il y a très longtemps, on est contrôlé, on est une planète prison. Ces extraterrestres reptiliens, ils ont eu de l'influence depuis des siècles et des siècles, si ce n'est pas des milliers d'années. Donc maintenant, je pense que ce que l'on a, c'est un essai, une tentative de certains extraterrestres humanoïdes de nous aider à augmenter notre conscience pour qu'on puisse nous libérer de ce joug, nous libérer de la planète prison dans laquelle on est. Donc ces extraterrestres qui nous envahissent, ils veulent vraiment qu'on soit enfermé dans un endroit de peur, avec de l'anxiété, de la compétition, de la guerre, alors que les extraterrestres positifs, les Nordiques, veulent qu'on augmente notre conscience et qu'on comprenne mieux les galaxies, l'univers, et qu'on commence à travailler avec des groupes d'extraterrestres positifs et qu'on commence à développer de la technologie extraterrestre, pas pour faire la guerre, mais pour de la science, pour la paix, pour des buts économiques, pour que les humains puissent vivre l'abondance plutôt que la peur et la compétition.
Alors vous évoquez la guerre, effectivement, et ces Nordiques qui voudraient que l'on ascensionne, si je vous comprends bien. Est-ce à dire que ce sont eux que l'on voit souvent au-dessus, soit des centrales nucléaires ou soit des installations militaires nucléaires, et qui s'amuseraient peut-être à désactiver les missiles pour nous montrer qu'on est en danger, qu'on joue avec le feu ?
La désactivation d'armes nucléaires dans les États-Unis et en Europe et même dans l'Union soviétique pendant la guerre froide, beaucoup de cela est connecté à ces groupes d'extraterrestres positifs qui vont faire en sorte d'éviter qu'une guerre nucléaire n'arrive. Et une des choses, c'était qu'ils voulaient montrer que ces armes nucléaires n'étaient pas quelque chose qui pouvait être utilisé en crise, parce qu'on peut les désactiver très facilement avec des ovnis, par l'occupation de ces vaisseaux. Et en faisant ça, en montrant ça, les extraterrestres ont vraiment voulu convaincre les États-Unis et l'Union soviétique, ainsi que l'OTAN, que les armes nucléaires n'étaient pas une solution pour se protéger, c'est des choses qui n'offrent aucune protection contre les ovnis, et que si l'humanité était sincèrement intéressée par les ovnis, c'est qu'ils devraient développer une politique de communication et d'honnêteté, de sincérité sur ce qu'est le phénomène ufologique.
Dans vos ouvrages, vous dites que l'épicentre de ce dossier extraterrestre est l'Antarctique. On se souvient de l'amiral Byrd qui s'y est rendu en 1946 avec l'opération High Jump. Et on a dit qu'il était rentré fou et qu'il avait vu des extraterrestres. Est-ce que vous avez des infos sur ce que Byrd aurait eu comme contact à l'époque, et est-ce qu'on l'aurait finalement remis dans ses buts ?
Admiral Richard Byrd is a very important figure.
Richard Byrd, c'est vraiment une personnalité très importante de toutes ces histoires, parce qu'en 1946 et 1947, il a mené l'opération High Jump, et son but principal n'était pas de surveiller l'Antarctique, ce qui était ce qu'on a dit au public, au grand public, ça c'est une couverture. Le vrai but de l'opération High Jump, c'était de trouver et de détruire les bases souterraines allemandes qui ont été construites là-bas. Et l'amiral Byrd, lui, il a commandé cette force marine de 13 vaisseaux et vaisseaux marins et 33 vaisseaux.
Operation High Jump with 4700 Navy personnel.
Mais en fait, il y avait beaucoup plus de vaisseaux volants que ça impliquait dans cette opération.
And also there was another aircraft carrier.
Il y a eu aussi un groupe de combat aérien qui était impliqué d'après certaines sources qui ont émergé au fur et à mesure de la guerre froide, et quand le KGB a sorti certains témoignages d'un énorme vaisseau de cargo impliqué dans l'opération High Jump. Et quand l'amiral Byrd a parlé de l'opération High Jump, il a donné un interview au Chili qui parlait d'un nouvel ennemi qui pouvait voler d'un pôle à l'autre et que ça le concernait beaucoup. Et quand il est rentré aux États-Unis, il a été hospitalisé pas très longtemps après son retour. Et ça, c'était fait pour le garder silencieux. Donc, il a été hospitalisé 10 jours. Et puis, quand il est sorti, quand on l'a laissé sortir, pendant 8 ans, il n'a pas été autorisé de parler de l'opération High Jump. Donc, ça a été vraiment un signe sûr que ce qui est arrivé en Antarctique est un désastre et que la Navy américaine a subi une grande défaite face au programme spatial d'Antarctique allemand qui a été développé directement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu un énorme problème pour les États-Unis dans les années 50 et dans les années 60.
Alors justement, 6 ans plus tard, en 1952, Washington DC est survolé, le Capitole est survolé par des ovnis. Et d'après vous, ce sont des ovnis nazis qui ont conduit les États-Unis à signer un traité avec le Quatrième Reich, c'est ça ?
Juste après l'opération High Jump, il y a eu un grand nombre de soucoupes volantes ou de vaisseaux en forme de disques qui ont volé au-dessus du territoire américain. Dès 1947 avec Kenneth Arnold, et c'était des formations de vaisseaux, et nombre de ces vaisseaux étaient reliés aux vaisseaux en développement dans l'Allemagne nazie, comme l'aile en forme de feuille d'automne. Et en 1952, il y a une autre formation de vaisseaux qui a été vue volant au-dessus de Washington DC. Et ces vaisseaux, d'après un bon nombre de sources intérieures que j'ai interviewées et dont j'ai analysé les témoignages, ces vaisseaux appartenaient en fait au 4e Reich. C'est des vaisseaux qui venaient d'Antarctique, qui volaient au-dessus du territoire américain, au-dessus de Washington DC, et qui mettaient la pression sur l'administration Truman pour faire en sorte de trouver un accord avec le 4e Reich. Et très peu de temps après ça, un accord a été trouvé. Il y avait beaucoup de scientifiques de l'opération Paperclip qui jouaient un rôle clé dans le programme spatial américain. Je crois que c'était des scientifiques allemands de l'opération Paperclip qui étaient des intermédiaires entre le programme antarctique allemand et l'administration Eisenhower, qui ont fait en sorte que cet accord soit trouvé. Et l'administration Eisenhower et la corporation militaire industrielle américaine travaillaient à partir de là, de concert avec le programme antarctique allemand et les alliés extraterrestres qui vivaient en Antarctique.
En 1955, vous dites qu'Eisenhower et un groupe dissident allemand basé en Antarctique ont signé un accord d'un programme spatial transnational. Il deviendra majeur, ce programme spatial. Donc Eisenhower, on l'a dit, a bien eu des réunions avec des extraterrestres.
En février 1955, le président Eisenhower est allé dans une base Air Force et beaucoup de soucoupes volantes ont été vues approchant Halmen, cet endroit, et l'un d'entre eux a atterri. Et secrètement, le président Eisenhower a atterri pas loin de cette soucoupe volante qui arrivait de Columbine 3, qui était l'avion présidentiel, et puis il est rentré dans la soucoupe volante et il a rencontré une délégation extraterrestre. Donc cette délégation représentait un groupe d'extraterrestres et également le 4e Reich d'Antarctique. Donc il y a eu beaucoup de gens de l'intérieur qui ont parlé de cette rencontre et qui disent que ça implique le programme du 4e Reich allemand. Et c'est quelque chose qui, une thèse soutenue par des gens comme Clark McLaren, qui était un opérateur de fusées pour la NASA. Il a eu une carrière de 35 ans pour la NASA. Et on lui a dit, des scientifiques allemands qui travaillaient pour la NASA lui ont dit que le vaisseau qui a atterri à Halmen, il y avait des Allemands à l'intérieur, que c'était piloté par le programme allemand Antarctique du 4e Reich et que c'était la base de la rencontre. Donc ce à quoi Eisenhower a accepté, c'était une alliance entre le 4e Reich et les alliés extraterrestres avec l'administration présidentielle américaine de l'époque.
Alors justement, vous évoquez la NASA et c'est là que j'ai du mal à comprendre. On est face à des gens qui ont une technologie incroyable qui aide les Américains à faire des vaisseaux et on voit que la conquête spatiale a été poussive, qu'il a fallu attendre 69 pour que l'homme pose le pied sur la Lune. Est-ce que finalement le programme Apollo était des miettes données au grand public alors qu'on sait qu'ils avaient la possibilité de faire voler des vaisseaux au fin fond de l'univers?
The Apollo program was really a cover program.
Le programme Apollo, ça a été vraiment un programme de couverture. Ça a été dirigé par des Allemands qui viennent du centre spatial dirigé par le docteur von Braun et d'autres anciens scientifiques nazis qui ont été responsables du programme V2. Et ainsi que le centre spatial Kennedy, qui était aussi dirigé par un SS officiel des nazis. Donc le programme Apollo, il a vraiment été fait pour donner l'impression qu'on voulait faire aller les Américains sur la Lune, mais c'était juste un programme de couverture avec beaucoup d'argent et de ressources et d'équipements et de pouvoirs humains qui étaient amenés directement en Antarctique pour aider à agrandir le programme allemand en dehors pour aller faire aller leur système en dehors de notre système solaire. Donc mon opinion, c'est que pendant que le programme Apollo a amené les Américains sur la Lune, ça a fait aller les Allemands sur Mars, sur Alpha du Centaure et même au-delà.
Michael Sella, pourquoi on ne l'a pas dit au public américain? On sait que des entreprises américaines ont collaboré à ce programme tout en cachant leur vérité ou la vérité à leurs actionnaires et à ce fameux grand public. Pourquoi on a eu peur de dire que les extraterrestres étaient déjà là et qu'on était finalement alliés avec eux?
Ce que l'administration américaine, de quoi ils ont eu peur, c'est que les Anglais et les Russes avaient peur aussi, c'est que les Allemands n'ont pas perdu la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait garder ça secret puisqu'ils avaient honte qu'un groupe très puissant d'Allemands ont réussi à établir une puissance en Amérique du Sud et en Antarctique et qu'ils ont développé une technologie très avancée. Donc quand l'opération High Jump a été conduite par les Américains, et avant ça vous avez eu l'opération Tambourin lancée par les services spéciaux anglais pour trouver et détruire les bases nazies en Antarctique, ils ont échoué d'ailleurs, et puis vous avez eu les Allemands du 4e Reich qui volent avec leur vaisseau en toute impunité au-dessus des États-Unis. Donc c'est quelque chose que l'administration américaine a eu trop honte pour rendre public. C'était impossible de rendre ça public, le fait que la Seconde Guerre mondiale a continué, d'autres moyens, que le Quatrième Reich s'était établi et qu'ils étaient devenus très, très puissants. Et également qu'ils ne voulaient pas révéler au public américain que, à cause de la nature très avancée de la technologie construite par les Américains avec la collaboration d'extraterrestres en Antarctique, que les États-Unis étaient forcés à négocier avec le Quatrième Reich et arriver à des accords avec eux par rapport à ces technologies pour que le programme spatial américain puisse essayer de rattraper son retard. Donc aux États-Unis, vous avez des programmes séparés. Vous avez l'Air Force, vous avez la NASA qui travaille avec les Allemands, et puis leurs alliés reptiliens, et puis vous avez aussi la Navy américaine qui travaille avec les Nordiques et les extraterrestres positifs. Donc c'est une situation très complexe aux États-Unis dans les années 50 et 60.
Mais ça veut dire que, Michael Salat, tout le personnel de la NASA, les astronautes, sont complices finalement de ce grand mensonge ?
Je crois que beaucoup d'officiels de la NASA et beaucoup des astronautes ne savent pas pour beaucoup de ces programmes. Ils voient des choses dans l'espace, ils voient des vaisseaux, mais on leur donne une histoire de couverture. C'est comme ça que le système de grand secret opère. Personne ne connaît jamais la vérité. Si vous n'avez pas besoin de connaître la vérité, pour eux, on vous donne une couverture, une fausse histoire. Ça vous donne un tout petit pourcentage de la vérité, mais ça fait en sorte de vous garder silencieux. Et donc, ces officiels de la NASA et ces astronautes comprennent le besoin de suivre les histoires qu'on leur raconte. On ne leur dit pas la vérité sur les extraterrestres qui nous visitent, ni sur les programmes spatiaux secrets que l'on développe. Et tous les jours, on leur donne des briefings sur ce qu'ils doivent savoir et tout le reste est top secret en ce qui les concerne.
Si je vous comprends bien, le Quatrième Reich existe encore et il est intra-terrien, ça veut dire qu'ils sont en Antarctique, mais il y fait froid, donc ils sont dans des bases souterraines.
Les Allemands ont découvert dans les années 40 de très grandes cavernes sous la calotte glaciaire qui étaient très cachées. Et auxquels on pouvait avoir accès au travers de rivières souterraines qui se relâchent dans la mer. Donc, on peut avoir accès à ces cavernes souterraines qui commencent grâce au réchauffement climatique. Ça rendait le fait de construire des cavernes souterraines très facile et ça a été confirmé par des scientifiques dans les années 70 que l'Antarctique avait de gigantesques cavernes chauffées thermiquement et qu'il y avait un grand réseau de volcans sous la calotte glaciaire antarctique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant 2017. Pardon. Et donc tous les lanceurs d'alerte qui ont dit que l'Allemagne avait découvert ces cavernes souterraines thermochauffées dans les années 40, ils avaient en fait raison grâce à des... et ça a été prouvé en 2017 grâce à des découvertes scientifiques. Donc c'est possible que certains Allemands ont trouvé ces cavernes grâce aux directions données par leurs alliés reptiliens. Et une fois arrivés là, ils ont construit de gigantesques industries pour construire des vaisseaux pour leurs futurs programmes spatiaux.
Vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, en raison de la fonte de la calotte glaciaire, les secrets les mieux gardés de l'Antarctique sont peu à peu révélés et expose d'anciens artefacts ou encore des débris ou des vestiges d'engins spatiaux d'origine extraterrestre qui s'y sont écrasés. Alors, cette révélation extraterrestre vers laquelle on tend, puisque le 25 juin, il va y avoir ce rapport, permettrait, vous le dites, de transformer radicalement l'avenir de notre planète en termes de technologie, d'histoire, mais aussi de manipulation, et surtout, car ça risque de révéler ce que vous appelez le « deep state », en fait, ceux qui gouvernent nos gouvernements. Ça veut dire qu'on a vraiment des gouvernants de pacotille, qu'au-dessus de tous nos gouvernements, il y a des gens qui dirigent.
On va être témoin grâce à cette déclassification de la fin de juin. Je pense que ce sera quelque chose qui va choquer le public américain, le fait que ces ovnis sont vraiment une menace sérieuse. Et ça, ça va créer beaucoup d'élan et beaucoup d'énergie pour l'expansion de l'US Space Force et pour faire en sorte qu'ils ont de meilleures technologies, de meilleurs fonds. Et ce sera un moyen de sortir certaines de ces technologies spatiales secrètes qui ont été développées depuis plusieurs décennies. Et maintenant, grâce à Space Force, on aura la couverture parfaite pour sortir au grand public ces technologies. Et maintenant, les militaires américains ont un intérêt stratégique gigantesque dans la sortie de ces technologies, puisque jusqu'il y a très peu de temps, l'espace, c'était considéré un environnement bénin, seulement acceptable pour des programmes de couverture et pour l'espionnage. C'est la surveillance spatiale, finalement. Mais maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que grâce à la création de Space Force, l'espace est maintenant considéré comme un territoire de guerre. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant, Space Force pourra avoir de très grands nombres de vaisseaux spatiaux construits pour combattre dans l'espace. Ça va prendre beaucoup d'argent et ça va prendre beaucoup, un grand support du Congrès. Je pense que les rapports de juin vont arrêter le processus qui fait que ça va faire en sorte que Space Force ait beaucoup, beaucoup de fonds et beaucoup d'argent, puisque beaucoup de ces menaces sont construites et sont déjà des vaisseaux spatiaux secrets construits par les Russes, par les Américains, par les Chinois. Mais le public, on va lui faire croire que Space Force peut être agrandie de très, très grande façon pour que c'est grâce à ces nouveaux vaisseaux. Ils sont utilisés pour faire la guerre dans l'espace, contre des extraterrestres, mais aussi peut-être contre la Chine ou la Russie, ou une combinaison des deux d'ailleurs.
Donc on voit bien que finalement, on en revient toujours à ces conflits et à la guerre. Dans vos ouvrages, que ce soit celui-ci, voilà, les ouvrages que j'ai lus avec beaucoup d'attention, vous dites aussi que des militaires américains ont été envoyés sur d'autres planètes par des E.T. Et dans quel but? Et surtout, vous dites qu'ils sont contrôlés par la pensée et qu'après leur mission, on leur lave le cerveau.
One of the most difficult things to understand about these secret space programs.
Une des choses les plus compliquées à comprendre à propos de ces programmes spatiaux secrets, c'est la manière dont ils recrutent le personnel. C'est de faire en sorte que le personnel s'engage sur un programme de 20 ans. Et le personnel, au départ, typiquement objecté en disant « c'est trop long, je ne vais pas passer 20 ans en service et ne pas voir ma famille et mes amis ». Mais on leur dit « on a une technologie avancée et avec cette technologie avancée, quand vous aurez servi vos 20 ans dans le service spatial secret, vous pourrez revenir dans le temps et vous pourrez être physiquement rajeunir ». C'est quelque chose qui vous permettra de continuer votre vie comme si vous n'aviez pas passé 20 ans dans ce programme. Donc en gros, on leur dit, vous pouvez passer 20 ans dans l'espace et puis à travailler avec le programme spatial secret et puis vous êtes ramené seulement pour à quelques heures du moment où vous êtes parti. Et puis vous revenez, vous ne vous rappelez de rien, vos souvenirs sont effacés, mais votre âge est le même. Même si vous avez vécu 20 ans de plus, et maintenant vous continuez à vivre votre vie de manière normale. Et ça, c'est un des plus gros problèmes de ce programme spatial secret. Et on sait de William Tompkins que ce genre de technologie pour la régression de l'âge a commencé à être développée de 67 à 71 dans une base militaire qui s'appelle TRW aux États-Unis et qu'ils ont développé cette technologie de régression d'âge. Et également, l'idée de voyager, de faire des allers-retours dans l'espace, quand vous utilisez certaines de ces technologies très avancées, vous pouvez absolument manipuler le temps et l'espace. Donc vous pouvez voyager en avant et en arrière dans le temps, en fonction de où vous voulez aller.
Donc des Américains sont allés travailler sur d'autres planètes au fin fond de l'univers, et dans quel but ?
Il y a de multiples programmes spatiaux qui ont été développés. Un par les Allemands, un par l'armée américaine, une autre par les Nations Unies. Les Nations Unies ont un programme spatial qui a été développé un peu comme une couverture pour que des nations comme le Brésil, l'Inde, la Chine n'objecteraient pas trop à cause de ce qu'ils ont appris sur les États-Unis et leurs arrangements avec le quatrième Reich. Donc, vu que les Nations Unies ont construit un programme spatial également à la fin de la guerre froide, et ce programme spatial, il envoie des scientifiques et de grands vaisseaux en dehors de notre système solaire pour des recherches et pour de l'exploration, mais également pour remplir une continuité de programmes d'espèces. En d'autres mots, parce qu'il y a tellement de différents groupes d'extraterrestres qui visitent notre monde, et à cause du danger d'une certaine troisième guerre mondiale qui détruirait beaucoup de vie sur la planète Terre, ou même de catastrophes naturelles comme
massive coronal mass ejection from the sun that triggers pole shifts.
Quelque chose qui viendrait du soleil, de grosses explosions solaires qui feraient un renversement des pôles, par exemple. Ils ont décidé que de programmes de continuité de l'espace devaient être mis en place. Donc, ils ont été envoyés sur la Lune, sur Mars, dans la ceinture d'astéroïdes, et aussi en dehors de notre système solaire, mais dans notre voisinage galactique.
Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est la vitesse. Vous dites que ces vaisseaux ont une énergie que nous n'avons pas, et surtout un accès à une vitesse plus importante que la vitesse de la lumière.
Les vaisseaux développés pour le programme spatial peuvent voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière, et c'est parce qu'ils sont capables de plier l'espace-temps. Ils font ça grâce à certaines de ces technologies avancées, comme la distorsion, le champ de distorsion physique. Ils font tourner du plasma à très haute température et à très grande pression dans un ring circulaire, et quand ça arrive à 60 000 révolutions par minute et plus, à une très grande pression, ça génère un effet spatio-temporel. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on peut sauter d'un endroit à un autre comme si vous pliez l'espace-temps, de quelque sorte. C'est similaire à la théorie de la théorie de la relativité générale d'Einstein, comme si vous avez une planète qui comme le Soleil, on perd du temps. Et dans ces rings de plasma, le temps peut avancer beaucoup moins vite, ou peut même reculer, revenir en arrière. Donc ça, c'est des technologies qui ont été développées et qui permettent à ces vaisseaux spatiaux de bouger au travers de tout le système solaire, et même dans des systèmes solaires très très éloignés, à des vitesses plus rapides que la lumière, puisque ça peut plier l'espace-temps. Donc pour nous, ce serait quelques temps, quelques minutes. Pour eux, ce sera quelques heures de voyage à la vitesse de la lumière pour arriver à une certaine destination.
J'ai encore deux questions à vous poser. Est-ce qu'il existe des hommes en noir, comme on le suppose, qui sont capables d'effacer les mémoires de certains qui savent la vérité et qui pourraient la divulguer ? Ça, c'est la première question. Et est-ce que les puissances spatiales que sont les États-Unis, la Chine, la Russie et la France, qui sont les quatre plus grosses puissances spatiales, en tout cas les quatre pays qui mettent le plus d'argent dans la conquête spatiale, ont collaboré avec les extraterrestres. Et est-ce que la France a collaboré ?
Regarding men in black, yes, absolutely.
En ce qui concerne les hommes en noir, les men in black, oui, absolument. Il y a un groupe très secret de gens qui sont associés avec la couverture de ces informations concernant la vie extraterrestre et l'ingénierie inversée par rapport aux vaisseaux spatiaux capturés. Ces men in black, certains ne sont pas humains. Certains sont des clones.
A combination of extraterrestrial genetics.
Une combinaison de génétique extraterrestre et humaine. Et donc ces gens qu'on a utilisés pour ces programmes Men in Black sont typiquement décrits comme des gens très menaçants et très intimidants. Les gens qui ont eu des expériences avec eux ont eu leurs souvenirs effacés. Et pour ce qui est des Russes, de la Chine, des Américains et de la France, leurs programmes spatiaux sont concernés. Chacun d'entre eux ont des programmes publics qui utilisent des systèmes de fusées à kérosène. Mais ça, c'est des programmes de couverture pour des programmes plus avancés, plus puissants, qui utilisent certaines de ces physiques de champs torsionnels, des pinceaux gravitiques opérationnels pour générer un effet antigravitationnel. Ils diffèrent en taille, ils diffèrent en objectif, mais tous ont des vaisseaux qui peuvent voyager et bouger très très vite au travers de l'atmosphère et dans l'espace et au travers de notre système solaire. Et ça va être quelque chose qui va être un grand choc quand on va commencer à le dire au public, parce qu'une fois que la Space Force commence à sortir ses possessions de ces technologies antigravitationnelles et que d'autres pays comme la Chine, la Russie et la France vont les révéler au public, ils en ont aussi. Utilisant cette technologie incroyablement développée, qui est gardée secrète depuis des décennies et des décennies.
Dernière question, je suis obligé de vous la poser. D'où viennent vos sources ? Est-ce que ce sont des amis politiciens avec lesquels vous avez travaillé ? Est-ce que ce sont des gens de la CIA, du FBI qui vous ont renseigné ?
Les sources de mes informations sont un mélange de différentes choses, comme des documents qui sont sortis,
Freedom of Information Act documents that have been
des documents officiels qui ont été sortis publiquement, officiellement, des témoignages de lanceurs d'alerte et de gens de l'intérieur qui sont très crédibles. Et également, finalement, j'utilise beaucoup de documents historiques qui sont publiquement disponibles au grand public pour réussir à connecter toutes ces différentes sources d'informations pour créer un grand plan de ce qui est en train de se passer. On va avoir une vue d'ensemble. Donc toutes les sources que j'utilise sont très crédibles. J'utilise des sources qui ne sont pas critiquables. Et je pense que les informations que je donne dans mon livre sur le Space Program, et tout le monde peut vérifier les sources. Et chaque analyste d'information pourrait arriver à leurs propres évaluations de mes sources, et je pense que leurs évaluations seraient très similaires aux miennes, puisque ce sont des choses et des sources dans lesquelles on peut avoir une grande confiance.
Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Il y a trois tomes, hein, donc vous allez pouvoir vous les procurer. C'est passionnant. C'est à lire, bien sûr. C'est à dévorer. Merci, Michael Sala, d'avoir été l'invité de BTLV en direct d'Hawaï, là-bas, où j'imagine qu'il fait bien beau et bien chaud. On vous souhaite une très belle journée, puisque c'est le petit matin pour vous. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.